Asante sana, buona Yesu, asante sana. Oh, asante sana, Yesu. Asante sana, buona Yesu, asante sana. Mato domingi colo. Mato domingi colo, Yesu, mato domingi. Mato domingi Yahweh, mato domingi colo Yesu, mato domingi. Oh, asante sana buona, asante sana, asante sana buona Yesu, asante sana. Oh, asante sana Yahweh. Asante sana, buona Yesu, asante sana. Et donc, nous arrivons à un très bon moment où nous allons écouter de la part de Dieu. Et je prie que sous nos applaudissements, s'il vous plaît, nous puissions accueillir l'orateur du jour, Papa Jérémy Dabo. Bienvenue.
Voilà, merci beaucoup, Annette. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour la gloire du Seigneur? Waouh! Amen, amen. Alors, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans les livres de Joël, chapitre 2, les versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, parole du Seigneur, prions. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous accordes, afin que nous puissions écouter de ta part. Guide-nous tout au long de ces moments, parle à nos cœurs, et fais Seigneur que cette parole puisse nous apporter la vie, et que cette vie puisse impacter tous les domaines, Seigneur, dans lesquels nous sommes impliqués. Au nom de Jésus, nous te prions, amen. Bonjour encore une fois. C'est un plaisir, un privilège, une grâce, un honneur pour moi de me retrouver devant vous en ce jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. En d'autres termes, nous célébrons l'anniversaire de l'Église. Parce que c'est au jour de la Pentecôte, justement, qu'on peut dire que c'est le jour 1 de l'Église. OK? Mais je sais que quand on est dans une Église baptiste comme la nôtre, on a des fois peur des termes comme Pentecôte, n'est-ce pas? Parce que c'est lié à un autre mot là, que nous connaissons tous et que nous craignons des fois, pentecôtistes, n'est-ce pas? Et quand on pense à pentecôtistes, ça nous effraie un peu parce que quand on imagine un peu les églises des réveils et les églises pentecôtistes, on sait que ce sont des églises où les gens aiment beaucoup les manifestations du Saint-Esprit et leurs manifestations sont trop spectaculaires, voilà, spectaculaires, où les gens perdent le contrôle, se cognent contre les murs, d'autres parlent dans des langues. Et on a un peu peur, on s'est dit, non, non, nous les baptistes, on se réserve un peu de ces choses-là. Mais cet après-midi, je vais quand même nous éclaircir sur certains points et nous aider à comprendre combien ce jour est important pour nous. Parce que non seulement c'est le jour de la naissance de l'Église, mais aussi c'est le jour où Dieu a accompli l'une des plus grandes promesses qu'il a données au travers des Écritures. Amen. Et donc, qu'est-ce que signifie le mot Pentecôte? Le mot Pentecôte signifie tout simplement 50e. OK? 50e. C'est un mot grec qui tire sa racine d'un mot qu'on dit pente. Pente, c'est 5 en grec. C'est pour ça qu'on dit pentagone. Le pentagone, c'est lui qui a combien de côtés? 5 côtés, voilà. Et donc, Pentecôte signifie tout simplement 50e jour. Et c'était une fête juive, au fait. On ne l'appelait pas Pentecôte à l'époque des Juifs, mais on l'appelait la fête des moissons, ok? C'est une fête qui vient après le sabbat de la Pâque, ok? On compte 50 jours après le sabbat de la Pâque, et après ces 50 jours-là, on fait la fête des moissons. Ça, c'était dans la culture des Juifs, d'accord? 50e jour, vous gardez ça. Donc, Pentecôte, au fait, c'est pas un truc là très compliqué, c'est tout simplement ça. 50e, ça va? On est tous ensemble jusque-là. Et donc pour nous, nous, les enfants de Dieu, ceux qui font partie de l'Église, on compte 50 jours après la Pâque, n'est-ce pas, la résurrection de Christ, après la résurrection de Christ, parce qu'il est ressuscité un jour de sabbat, ok? Disons les jours après le sabbat, les dimanches d'après le sabbat, on compte 50 jours ou bien 7 semaines et c'est la fête de Pentecôte. Pour les Juifs, pour eux, c'était la fête des moissons où il y avait des choses, des observations que Dieu leur avait données dans les livres de Lévitique au chapitre 23, verset 15. Vous pouvez aller lire à la maison. Je n'ai que 25 minutes, donc je vais juste vous donner des pistes pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Si vous lisez Lévitique 23, verset 15, à partir du 15e verset, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la fête des moissons. Et donc, 50 jours après la résurrection de Christ, il y a maintenant la Pentecôte. La Pentecôte, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un grand jour parce que c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu a donnée au travers les temps à son peuple. Et cette promesse, nous venons de la lire dans les passages que nous avons lus dans Joël chapitre 2, verset 28, où on dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Maintenant, imaginez pour les gens qui venaient de recevoir ces messages de la part du prophète Joël à l'époque juive où Jésus n'était pas encore venu. En fait, ces gens savaient que l'Esprit de Dieu ne descendait que sur des personnes spécifiques et pour une tâche spécifique. C'était ça dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu ne pouvait descendre que sur les prophètes, que sur les rois, que sur les juges, que sur les leaders, ainsi de suite. Mais c'était pour une période spécifique et pour une tâche spécifique. Mais ici, Dieu promet de faire quoi? De répandre son esprit sur toute chair. Ici, quand on parle de la chair, on voit tous les hommes, toute l'humanité, ok? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Là, il donne déjà des détails. Et les filles, et les fils, et les vieillards, et les jeunes gens, ils vont tous faire quoi? Recevoir mon esprit. L'esprit ne sera plus sélectif comme il était dans l'Ancien Testament, mais à tous ceux qui auront cru, Dieu va faire quoi? Il va répandre son esprit. C'est ça la nouvelle alliance. Et quelles sont les implications de la Pentecôte ou bien du fait que Dieu a répandu son esprit pour nous? Parce que le thème pour cet après-midi, c'est le travail continu du Saint-Esprit aujourd'hui. Le travail continu du Saint-Esprit aujourd'hui. Je l'ai dit, c'était une promesse. Au jour de la Pentecôte, l'accomplissement d'une promesse, cette promesse que nous venons de lire, venait de faire quoi? D'arriver. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu a répandu son esprit sur ses disciples qui étaient tous réunis dans un même lieu et ils étaient faits tous ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais quelles sont les implications du fait que le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples et il continue à œuvrer même jusqu'à aujourd'hui dans son Église? La première implication, c'est que cet Esprit-là donne vie. L'Esprit de Dieu donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Il y a un passage très particulier que j'aimerais que nous lisions ensemble, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit fait quoi? Il vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, Paul est en train de faire une comparaison entre la loi et l'esprit. Parce que si nous lisons dans Exode, chapitre 32, vous savez que Moïse venait de recevoir la loi, n'est-ce pas? Dieu a écrit cette loi avec son doigt, c'est la Bible qui nous le dit. Et quand Moïse se retourne, il va vers les camps où sont les restes des Israélites, il les retrouve, il entend des bruits, n'est-ce pas? Il entend beaucoup de bruits et il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que le peuple est en train d'adorer quoi? Un veau d'or, n'est-ce pas? Et quand ils voient ce qu'ils sont en train de faire, ils jettent par terre les deux tablettes de la loi. Et après, ce qui s'est produit, c'est que toutes les personnes qui s'étaient prosternées devant ces veaux d'or, la Bible nous dit qu'ils ont tous été tués. Et la Bible précise quelque chose de très puissant que j'aimerais qu'on puisse lire dans Exode chapitre 32, verset 28. Aujourd'hui, je suis venu enseigner, ok? En tout cas, suivez-moi très bien. Ça va vous aider à mieux comprendre les implications de la Pentecôte. Exode chapitre 32, verset 28. On dit, les enfants de Lévi firent ses coordonnées Moïse et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Vous savez que les Lévites, eux, n'avaient pas adoré ces veaux d'or-là. Et c'est à eux qu'on avait donné l'ordre de faire quoi? De tuer toutes ces personnes-là qui s'étaient prosternées devant cette statue-là. Et on nous dit précisément qu'environ 30 000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. Dieu ne fait rien au hasard. Parce que si on va plus loin et qu'on arrive en Actes chapitre 2, quand Pierre vient de prêcher, combien d'hommes viennent à Dieu? 3 000 hommes. La loi fait quoi? Elle tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. Pourquoi la loi tue? C'est parce qu'elle montre combien nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas capables de faire quoi? D'atteindre la perfection de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, quand l'Esprit de Dieu descend sur toute chair, elle nous donne un cœur nouveau. Elle remplace le cœur de pierre par un cœur de chair, ok? Et de sang, et ce cœur-là, il est capable d'obéir à toute la loi. Sans être poussé, pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en nous qui nous donne la vie et qui nous permet de vivre tel que Dieu le veut. Ce que Paul a dit, c'est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, c'est justement cette comparaison que nous sommes en train de voir entre Exode et les jours de la Pentecôte. Ok? Autre chose, l'esprit vivifie, je viens de dire, Dieu nous donne, il écrit sa loi en nous à travers son esprit. Et donc nous sommes capables de vivre tel qu'il le souhaite. Cet esprit-là est aussi la garantie de notre communion fraternelle. Première chose que je viens de dire, c'est que l'esprit donne la vie. Mais aussi cet esprit est la garantie de notre communion fraternelle. Elle est la garantie de notre communion fraternelle. Vous savez, les hommes s'unissent pour différentes choses, pour différents intérêts. Et nous voyons que dans Genèse chapitre 11, ils étaient tous unis, n'est-ce pas? Ils étaient tous unis et ils ont dit, ok, nous allons fabriquer des briques. Ça, c'était la première chose qu'ils ont demandé. Ils ont dit, bon, on va fabriquer des briques. Et ils ont commencé à fabriquer des briques. Mais comme l'homme, Akisha Onja Kakitu Hapenda, que j'ai arrêté, il a dit, ah, fabriquons une tour. Hein, la tour de Babel, n'est-ce pas? Babel signifie confusion, juste pour votre information. On va fabriquer une tour. Et ils ont commencé à faire quoi? À fabriquer une tour. Et la Bible nous dit quelque chose de très puissant dans Genèse chapitre 11. Nous allons lire encore pour que nous puissions comprendre comment l'Esprit Saint est la garantie de notre communion fraternelle. Vous savez qu'à cette époque-là, les hommes étaient unis, mais ils n'étaient pas unis pour les bonnes choses, pour la bonne cause. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. » Après quelque temps, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ces hommes ici étaient unis, oui, ils avaient la même langue, ils étaient en train de faire la même chose, mais c'était pour leur propre gloire. Ce n'était pas pour glorifier Dieu. Et quand Dieu a vu cela, Dieu descendit pour voir et il dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Même Dieu reconnaît la force de l'unité. Parce que ces gens, bien qu'ils étaient en train de faire quelque chose de mal, ils étaient quand même unis. Nisagi si watu wanakutananaka mubar, wukonye wote mbele ya bouteille, ils sont unis. Il n'y a pas de plus grande communion ça ili avale wanakwaka mbele ya bouteille, n'est-ce pas? Unastukaka tu verako iliisha meimea la tena. Unakusa ili ala tu hae. Bon, ne me demandez pas comment j'ai su ça, ok? Il y a la tour à eux. Parce qu'il y a une communion. Ils sont tous unis en communion et ils peuvent tout faire. Dans l'union, on peut tout faire. Et il se passe toujours des clopes de cigarettes. Ils sont vraiment unis, mais dans les mauvaises choses. Alors, en Genèse chapitre 11, Dieu a dit, « Ah, ah, watu nikabacha hivi, na watafanya kibaya kenye si joue. » Parce qu'ils étaient vraiment en train de faire quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, une tour dont les sommets touchent au ciel. Parce que l'homme sans Dieu, il est un peu fou. Il est un peu fou. Et Dieu a dit, nous allons les disperser. Il les a dispersés, il les a divisés et il a changé toutes les langues. Mais en Actes chapitre 2, quelque chose de puissant s'est produit. Cette dispersion, cette malédiction qui est arrivée ce jour-là à la tour de Babel a été renversée. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont parlé dans d'autres langues. Et toutes les personnes de toutes les nations qui étaient là les ont entendus parler dans leur propre langue. Parce que c'était une façon pour Dieu d'accomplir une promesse qu'il avait donnée dans les livres de Zéphanie, chapitre 3, verset 9. Si les médias peuvent le projeter, j'aimerais qu'on puisse le lire. Zéphanie, chapitre 3, verset 9. Voilà, je vais encore une fois chercher. On verra qui sera le premier à trouver. Zéphanie, chapitre 3, verset 9. Tu vois, les prophètes mineurs, ce sont des livres qu'on ne lit pas souvent. Il y a même des personnes ici qui ne savaient pas que ces livres existaient dans la Bible. Zéphanie, chapitre 3, ou Sophonie. Hein? Je pense que c'est Sophonie. Voilà, moi je suis en train de le dire en anglais. Zéphanie. Sophonie, chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. » Il va donner au peuple quoi? Des lèvres pures. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, il nous donne des lèvres pures. Nous parlons un langage céleste. Et nous allons les servir d'un commun accord. Au fait, la Pentecôte a une grande signification pour nous, encore une fois, aujourd'hui, parce que justement, c'est la garantie de quoi? De notre communion. C'est là que Dieu nous donne des lèvres pures. Il nous donne un langage céleste où je peux être un Congolais qui croit en Christ et je me retrouve avec un Ougandais ou bien un Chinois qui croit en Christ. Mais il y a quelque chose en nous qui fait quoi? Qui fait que nous avons beaucoup en commun. Nous avons des lèvres pures. Nous avons ce langage céleste. Nous sommes unis. Nous sommes des différentes tribus, des différentes nations, mais à cause de l'Esprit Saint qui est sur nous, notre communion est garantie. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça même la diversité de l'Église. Une dernière chose, ou avant-dernière chose, c'est que l'Esprit Saint, c'est la marque des rachetés. C'est la marque des rachetés. Vous voulez connaître qui est un chrétien et qui ne l'est pas? C'est le chrétien, il a l'Esprit Saint en lui. C'est la marque. La marque, ça veut dire c'est un tatouage. Les tatouages des chrétiens, c'est l'Esprit Saint en eux. Éphésiens chapitre 1, nous allons encore lire très rapidement, Éphésiens chapitre 1, verset 13. J'ai préféré lire ça dans la version français courant. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 13, « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez crié au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. » Dieu a mis sa marque personnelle sur nous en faisant quoi? En nous donnant le Saint-Esprit sur nous. Qu'est-ce qui distingue les chrétiens et celui qui ne l'est pas? C'est cette marque-là. C'est l'Esprit de Dieu qui a été fait quoi? Qui a été mis sur nous. Et la Bible continue en disant au verset 14, « Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. » Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Vous savez, la vie vient avec beaucoup de défis. Et elle peut des fois nous faire douter de quoi? De la bonté de Dieu. Elle peut des fois nous faire douter des promesses de Dieu. Mais à cause de cette marque que Dieu a reposée sur toutes les personnes qui ont crié en son nom, il y aura toujours un souffle qui te rappellera, ce n'est pas la fin du monde. Dieu aura toujours les derniers mots. Amen. Dieu a toujours les derniers mots. Amen. Le Saint-Esprit est la marque des rachetés. Mais aussi le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit, une puissance, vous allez recevoir quoi? Une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables de faire toutes les choses, toute l'œuvre du ministère. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des dons. Il y en a qui ont des dons de prophétie. Il y en a qui ont des dons de discernement. Il y en a qui ont des dons d'enseignant. Il y en a qui ont des dons de pasteur. Il y en a qui ont des dons, beaucoup de dons. Une grande diversité de dons. Et c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui nous les donne. C'est lui qui nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Mais alors, comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? C'est la grande question. Comment faire pour vraiment avoir ce Saint-Esprit? La première chose que je vais vous demander et que je vais vous dire, si vous n'avez pas encore crié, on reçoit le Saint-Esprit à partir du moment où vous avez crié. La parole que je viens de lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez crié au Christ, alors Dieu. Comme vous avez crié, alors Dieu a fait quoi? A mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit. » À partir du moment où vous croyez en Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, Dieu fait quoi? Il vous donne le Saint-Esprit. Il vous fait cette marque-là. Mais vous devez vous demander, mais pourquoi moi, l'Esprit Saint, c'est comme s'il n'agit pas beaucoup sur moi, je ne peux pas prêcher comme les autres le font, je n'ai pas ces ailes-là pour les services comme les autres le font. Eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit, il ne force personne. Le Saint-Esprit, c'est vrai que quand vous croyez, Dieu vous le donne, mais vous devez apprendre à collaborer avec lui. Vous devez apprendre à le laisser vous guider, parce qu'il est notre guide, il est notre consolateur, il est celui qui va nous guider dans toute la vérité, n'est-ce pas? Et qui nous guide dans toute la vérité. Mais il ne peut pas le faire sans votre collaboration. Il ne peut pas le faire si vous ne lui donnez pas cet espace-là de faire quoi? De vous parler, de vous guider. Et la première chose pour que le Saint-Esprit puisse réellement vous guider et vous parler, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Parce que quand nous obéissons, nous donnons au Saint-Esprit la force d'agir encore une fois dans notre vie. Mais quand nous restons indifférents à la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est là. C'est comme si on a restreindre. Vous restreignez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas à ce que vous entendez. La parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous donnons au Saint-Esprit cet espace-là de faire quoi? D'agir encore plus en nous. Des fois, on peut vous envoyer évangéliser. On peut vous dire, allez évangéliser. Je n'ai jamais évangélisé. Mais ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que quand vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous n'avez jamais été avant, par exemple, c'est votre première fois que vous évangélisez, que vous parlez aux gens de l'Évangile, juste parce que vous avez obéi à cet ordre-là de Dieu, même si vous n'avez aucune expérience dans l'évangélisation, l'Esprit de Dieu en vous va vous utiliser et vous allez parler. Pourquoi? Parce que vous avez obéi. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas en moi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas puissant en moi? Obéissez seulement et vous allez voir. Allez à des grandes longueurs pour Dieu et vous allez voir comment l'Esprit Saint va se manifester au travers de vous. Servez Dieu. Soyez souple dans les choses de Dieu et vous allez voir combien les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu va agir au travers de vous. C'est pour ça que les prophètes pouvaient encore dire, ce n'est ni par la puissance, ni par quoi? Ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il suffit que tu te dises, ici, je ne suis pas capable. Et là, le Saint-Esprit va te rendre capable. En fait, le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui se croient forts ni puissants. Le Saint-Esprit est pour ceux qui savent que, en tout cas, je n'ai pas le contrôle ici. Je suis au bout de moi-même. Et c'est là que Dieu commence à agir. Et c'est là que l'Esprit de Dieu commence à se manifester au travers de vous. Le Saint-Esprit est pour les dépendants, pas pour les indépendants. Obéir, prier. Nous devons prier. Le Saint-Esprit est pour ceux qui prient. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous voulez voir l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie aujourd'hui. Priez. Priez sans cesse. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 5, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, n'est-ce pas? Mais au contraire, soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et après les versets suivants, on nous explique comment. En entonnant des cantiques, n'est-ce pas, des psaumes spirituels, la prière, passer du temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée par le même esprit. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi à moi l'Esprit de Dieu ne me parle pas? C'est parce que vous n'avez pas encore compris que cette parole, c'est le souffle de Dieu sur une page. C'est le souffle de Dieu. On dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Et quand on dit souffle de Dieu, c'est le roi. C'est ça l'esprit, roi. En hébreu, l'esprit c'est roi. Ok? Et à chaque fois que vous trouverez que Dieu a soufflé, son esprit c'est roi. C'est ces mots-là. Et même cette parole est inspirée par le même esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez connaître la parole. Parce que la parole est puissante et efficace. C'est elle qui, c'est comme une épée à double tranchant qui divise l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? C'est ce qu'Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit. C'est cette parole qui va nous aider à discerner réellement que ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Ça, ce sont mes sentiments, c'est ma conscience qui est en train de me parler. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui va nous aider à nous éclairer, à nous aider à faire quoi? À comprendre, à savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Et la faire quoi? Et la distinguer des autres voix. Parce qu'il y en a qui confondent la voix de leur conscience avec la voix de l'Esprit-Saint. Mais la parole de Dieu va nous aider à surmonter cette confusion-là. Je vais m'arrêter là parce que notre temps est épuisé. C'est un sujet qui pouvait même prendre toute une série. Mais c'est juste une introduction pour vous aider à comprendre combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Et j'ai dit que la première chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de croire. C'est de croire au Christ. C'est là que Dieu va mettre cette marque personnelle sur vous. Et ma question pour quelqu'un ici, c'est est-ce que tu as déjà cru? As-tu déjà cru? Parce que c'est la garantie que toi aussi tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être c'est le jour où tu vas recevoir cet Esprit-là. Et pour ceux qui marchent avec Dieu pendant longtemps et qui ne voient pas la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, ma question c'est, quels sont les domaines de ta vie où tu n'obéis pas? Tu t'enivres d'autres choses. Il n'y a pas que les vins qui enivrent. Il y a aussi des vaines poursuites qui enivrent. Il y a aussi des priorités autres que Dieu qui enivrent. Et ces priorités-là, quand elles nous enivrent, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste calme parce qu'il ne force personne. Et s'il y a ces domaines-là dans ta vie qui ne te permettent pas de vivre pleinement dans la plénitude, je m'excuse pour la tautologie, dans la plénitude du Saint-Esprit, demande à Dieu de te montrer, de te donner la force de les abandonner. Tu ne lis peut-être plus la parole depuis longtemps. Demande à Dieu de te donner une soif de sa parole. Demande à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Il y a un cantique que j'aime beaucoup et que j'aimerais que nous puissions chanter pendant que nous sommes en train de finir. Je vais vous demander de vous lever et nous allons les chanter tous ensemble, juste les premiers coupures, afin de demander à Dieu de souffler son Esprit sur nous, afin que nous soyons ces personnes qui n'agissent pas par leur propre force, mais qui ont l'essence du Saint-Esprit de Dieu, qui les conduit, qui les guide et qui les rend des personnes qui impactent partout où elles sont. Comme un torrent d'eau qui déborde des rivages, souffle Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit à jamais, souffle Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle Esprit. Vers les ciels, souffre Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.